Chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui, nous continuons notre série concernant Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Notre 35e étude de ce matin a comme titre La grande tribulation. Nous rencontrons une difficulté dès le début de notre étude d'aujourd'hui. Nos deux études précédentes nous avaient transportés au ciel à la réunion de l'Église devant le tribunal du Christ et autour de sa table de noces. Nous nous sommes familiarisés avec cette belle ambiance céleste et nous avons du mal à la quitter maintenant. Pourtant, il est nécessaire de la laisser si nous voulons nous faire une idée à peu près complète de la vie du monde à venir, comme la Sainte Parole de Dieu nous la dévoile. Il nous faut laisser la belle et sainte ambiance du ciel pour retourner ici-bas et rendre visite une dernière fois à notre planète. Et nous verrons qu'il s'y passe des événements très tristes pendant que là-haut a lieu la réunion de l'Église devant le tribunal du Christ et autour de la table de ses noces. Or, ici-bas, ces événements sont la grande tribulation et l'apparition de l'Antichrist. Pour avoir une juste perspective de notre sujet, il nous faut retourner un peu en arrière. Oui, et je pourrais même dire, il nous faut retourner à la troisième étude de notre série. Donc dans cette étude-là, nous avons entendu le son d'une trompette déchirer l'air, nous avons vu les tombes des croyants se vider et un nuage enlever l'Église à la rencontre de son Seigneur. L'Église et les croyants morts en Christ ont donc été enlevés et ont pris avec leur Seigneur le chemin vers le pays de la joie. Mais notre monde, ici-bas, cette planète qui fut jusqu'alors notre maison, qu'est-elle devenue? Elle continue à tourner autour de son axe, d'accord, elle poursuit sa vie. Mais son histoire, après l'enlèvement de l'Église et jusqu'à la prochaine étape du plan divin, constitue quelques-unes des pages les plus affligeantes de la parole prophétique de Dieu. Cette trompette qui retentira au-dessus de notre terre sonnera la fin d'une grande et importante période de l'histoire de notre planète, celle connue sous le nom de temps de l'Église. Il y a plusieurs périodes qui se distinguent dans l'histoire humaine. La première, c'est la belle période de l'innocence. Après, c'est la période qui a suivi la chute de l'homme, celle de la conscience, pendant laquelle la loi pour l'homme était simplement la voix de Dieu, oui, celle qui était restée dans son cœur. Mais ensuite, c'est le temps de la loi. C'est alors autour d'une nation, c'est-à-dire la nation d'Israël, que Dieu a tressé ses plans, tous ses plans pour l'homme. Puis nous avons le temps de l'Église durant lequel Dieu met de côté Israël, mais pas pour toujours, comme l'apôtre Paul le déclare dans son épître aux Romains, chapitre 11, verset 25. Pendant cette période, alors Dieu suscite un peuple nouveau du milieu de tous les peuples, un peuple ayant pour fondement l'œuvre expiatoire du Christ. C'est ce temps de l'Église que nous traversons actuellement. Le nombre des élus n'est pas encore complet, c'est encore l'époque de la grâce et il est à la portée de quiconque de pouvoir entrer dans le cercle béni de l'Église, c'est-à-dire du corps mystique du Christ, et par là dans la vie bienheureuse qui se trouve au-delà de la tombe. Mais attention, le temps de la grâce touche bientôt à sa fin. Regardez autour de vous et voyez tout ce qui se passe sur cette planète. Donc, au son de la trompette, de la résurrection, c'est justement le temps de l'Église qui se terminera. Une grande parenthèse se fermera pendant que le nuage s'éloignera et amènera l'Église en présence du Seigneur et, pour la première fois, le monde, celui de l'ère chrétienne, se trouvera sans chrétien. Ce monde-là sera étrange et son histoire bien affligeante. Un jour, notre Seigneur avait dit aux siens, « Vous êtes le sel de la terre. » Saint Matthieu, chapitre 5, verset 13. De siècle en siècle, ce sel, quelques grains par-ci, quelques grains par-là, accomplit sa mission, empêchant la putréfaction du corps de la société humaine. Mais alors, le sel sera enlevé et le corps sera livré librement à l'influence des forces diaboliques de la destruction. Le Seigneur avait encore dit aux siens, rappelez-vous, vous êtes la lumière du monde. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Durant des siècles, cette lumière n'a pas cessé de luire, tantôt plus faible, tantôt plus vive. La petite flamme de l'Église n'a pas cessé de donner la lumière de son témoignage dans un monde impie. Alors subitement, la lumière sera enlevée et le monde sera plongé dans les ténèbres les plus profondes qu'il aura connues dans sa longue et aventureuse histoire. Il est donc entouré de ténèbres, ce monde, qui entre maintenant dans cette terrible période de son histoire, prophétiquement connue sous le nom de la Grande Tribulation. Pour nous faire comprendre ce qu'est cette période, la parole de Dieu met à notre disposition plusieurs éléments, en particulier dans le livre du prophète Daniel, ensuite dans certains discours de notre Seigneur, ainsi que dans l'Apocalypse. Mais malgré cette surabondance des sources, les commentateurs des Saintes Écritures ont encore réussi à envoyer des flèches empoisonnées entre eux, ce qui, une fois encore, souligne le danger du dogmatisme sur des questions de la Sainte Parole prophétique de Dieu. Les prophéties de la Sainte Écriture ne nous ont pas été données pour préparer à l'avance un tracé détaillé de l'action future de Dieu sur notre monde. Elles nous ont été données pour placer dans notre cœur la certitude que Dieu, dans ce monde chaotique, a son plan pour nous consoler et aussi pour nous encourager au fur et à mesure que les différentes phases du plan de salut s'accomplissent. En ce qui concerne les signes des temps, notre Seigneur avait dit un jour aux siens, Voyez-vous, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Saint-Luc, chapitre 21, verset 28. Si nous avons commencé cette série d'études, nous l'avons fait dans l'unique but de lever, on peut dire, de lever notre visage vers le Très-Haut, et cela dans la sainte attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous livrerons donc pas à un examen détaillé des si nombreux éléments des Saintes Écritures dont nous disposons en ce qui concerne la terrible période de la grande tribulation, mais nous nous contenterons de distinguer quelques lignes essentielles de cette période obscure et assez malheureuse. Ensuite, nous avons une période non virtuelle, mais réelle. Premièrement, tout d'abord, ce sur quoi il faut insister particulièrement, il faut bien le dire, c'est que la grande tribulation sera une période concrète dans l'histoire du monde. Des interprètes bibliques rationalistes ont essayé de supprimer le caractère historique de cette période. Or, cela est totalement contraire aux déclarations les plus nettes de la Sainte Parole de Dieu. Le prophète Daniel, parlant pour le temps de la fin, écrit dans son livre que cette période-là sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Daniel chapitre 12, verset 1. Notre Seigneur, parlant de ce même temps de la fin, il avait dit, « Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. » Saint Matthieu, chapitre 24, versets 21 et 22. Ainsi sera bien, hélas, une période concrète de détresse et de peine. L'affliction et la douleur ne sont pas des choses inconnues pour notre terre. Depuis que l'homme a tourné le dos à Dieu et pris son propre chemin, menant sa vie tout seul à sa guise, les épines de la malédiction, de la détresse et des chagrins ont été ses inséparables compagnons. Le point le plus remarquable et le plus tragique, on peut dire, de toute cette histoire-là, c'est que plus l'homme essaye de trouver la joie, plus il augmente sa peine. Il en souffre tout en offrant comme instrument de malheur ses propres qualités. Notre époque n'est-elle pas un exemple frappant de cette loi de malédiction sous laquelle l'homme vit? Jamais auparavant, l'esprit humain n'a fait de telles conquêtes dans le royaume de la nature. Une série de découvertes et d'inventions étonnantes qui auraient pu être mises au service de l'homme, sont sortis ces dernières années de ces laboratoires scientifiques. Or, ces mêmes inventions ont rempli sa vie de crainte et l'ont transformé en antichambre de l'enfer. Mais la détresse et la douleur que connaît notre monde ne seront rien en comparaison de ce qui lui est réservé dans cette période particulière de son histoire. Une vague d'affliction le couvrira et un spasme de douleur l'ébranlera. Il n'aura jamais rien connu de pareil. Ce sera la grande tribulation. Donc le pire est à venir. Deuxièmement, cette période commencera au moment de l'enlèvement de l'Église. Cela signifie que l'Église qui a goûté largement la détresse et la douleur ne connaîtra pas la grande tribulation. Nous rencontrons ce fait indéniable à plusieurs reprises dans la Sainte Bible. En parlant de cette grande affliction aux siens, notre Seigneur avait dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Saint Luc, chapitre 21, verset 36. À son Église aussi, par l'apôtre Jean à Patmos, il a dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Mais le plus clair témoignage, c'est celui que la sainte parole de Dieu nous donne par l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens. Il avait commencé, semble-t-il, à circuler dans l'église de Salonique de faux enseignements concernant le second avènement du Christ. Alors l'apôtre Paul écrit aux membres de cette église que ce jour ne viendra que lorsque apparaîtra le Fils du péché, et cela ne se passera que lorsque celui qui le retient encore aura disparu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, et noté jusqu'au verset 7. Chers amis, qui est celui qui le retient encore? Celui qui empêche la manifestation effrénée du mal, cette barrière qui retient l'élan de la vague du péché, qui d'autre sinon l'Église véritable du Christ et l'action spirituelle qu'elle exerce dans ce monde de corruption? La vague immonde ne couvrira la terre que lorsque la barrière sera enlevée, c'est-à-dire lorsque celui qui la retient s'éloignera lors de l'enlèvement de l'Église. Troisièmement, cette période de la grande tribulation sera une période de guerre et de carnage sans précédent dans toute l'histoire du monde. À ce moment-là, a dit notre Seigneur, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu, chapitre 24, versets 7 et 8. Le monde terminera son histoire de cette façon avec des guerres. Tout cela, bien sûr, est inacceptable pour l'homme qui désire régler sa vie tout seul et d'ignorer Dieu. L'homme n'a jamais cessé de chercher le moyen de mettre la guerre en marche de sa vie. Mais tous ses efforts ont abouti jusqu'à présent à de tristes naufrages et à des guerres plus terribles les unes que les autres. Notre monde ne connaîtra la paix que quand viendra le prince de la paix, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ce sera le sujet de notre prochaine étude. Quatrièmement, la période en question se caractérise par un débordement de péché et d'impiété qui atteindra son comble avec l'apparition d'un homme que l'Écriture sainte appelle l'homme de l'iniquité, est le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Et ailleurs, l'Antéchrist, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 2 verset 18. J'ai dit chapitre 2 verset 18. Or, des antéchrists n'ont pas cessé d'exister dans l'Église de ses origines jusqu'à nos jours. Tout enseignement qui est contraire à celui de l'Écriture sainte représente l'esprit de l'Antéchrist. Mais dans cette dernière période de l'histoire du monde, toute l'impiété et toute l'incrédulité amalgameront dans un seul homme, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui, comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, s'élevant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, va donc jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, incroyable mais vrai, et se fait même passer lui-même pour Dieu. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Quelle horrible physionomie, digne incarnation d'une effroyable période. Cet odieux personnage a toujours existé, il a même excité la curiosité des interprètes bibliques, dont plusieurs ont cru avoir découvert l'Antéchrist en différentes personnalités historiques. Lorsque au XVIe siècle éclata à l'Occident la grande révolution religieuse de la Réforme, les interprètes catholiques romains ont tout de suite reconnu l'Antéchrist en la personne de Martin Luther. Les interprètes évangéliques, à leur tour, n'ont pas tardé à rendre l'appareil et ils ont déclaré que le pape était l'Antéchrist. Pourquoi pas? Ensuite, lorsque l'étoile de Napoléon Ier a passé au-dessus de l'Europe, les interprètes des Saintes Écritures dans les pays anglo-saxons, surtout, particulièrement atteints par le passage de cette étoile, ont tout de suite vu l'Antéchrist en Napoléon. Un peu plus tard, nous avons Mussolini et Hitler, qui ont reçu ce titre-là dans les pages de bien des commentaires des Saintes Écritures. Et maintenant, on attend qu'un autre homme politique la revendique. Tout cela nous montre simplement jusqu'où peut aller l'homme, même le chrétien, quand à la place de la sainte parole de Dieu, il met son imagination comme règle de son étude. La seule prophétie que je me permets à moi-même de faire relativement à l'Antéchrist est que je ne le connais pas, car à l'heure de son action terrifiante ici-bas, je serai, ayant été gracié par le Christ, avec tous les autres croyants assis autour de la table nuptiale de notre Seigneur là-haut. Et c'est cela, mes chers frères et sœurs, c'est mon souhait le plus cordial pour nous tous. Et cinquièmement, enfin, la cible principale de l'action de l'Antéchrist, ce seront les Juifs en tant que nation. Écoutez un peu les nouvelles ces jours-ci, à la radio, à la télévision, dans les journaux. Ils recevront la part du lion lors de la grande tribulation. À travers les siècles, ces malheureux ont été persécutés et comment? Mais c'est alors qu'Israël boira, hélas, la lie la plus amère de cette coupe-là. Dieu a réservé dans son plan une étape glorieuse pour lui, mais avant qu'il en arrive là, hélas, il goûtera toute l'angoisse de cette période. Selon les indications claires de la Sainte Parole de Dieu, Israël, comme nation indépendante et bien constituée, connaîtra des moments assez tragiques. Comme nation, il conclura, pour terminer, parce qu'ils ont quand même peur, un traité avec l'Antéchrist, incroyable mais vrai, et comme nation, et il verra l'Antéchrist qui va violer ce traité comme l'a fait en son temps un certain Hitler et va envahir son pays. Hitler a fait pareil. On constate aussi aujourd'hui que pour la première fois depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, le pays d'Israël existe comme nation autonome et indépendante. Et pour la première fois, après tant de siècles, le nom de l'État d'Israël a été signalé de nouveau sur le plan géographique et l'ancien peuple de Dieu se trouve une fois encore au nombre des peuples qui ont une existence propre. Notre Seigneur avait dit, écoutez une comparaison empruntée au figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 32. Dans la langue symbolique de l'Écriture sainte, le figuier est toujours le symbole du peuple d'Israël. Le tronc de ce figuier était resté nu pendant des siècles. Et voilà que maintenant, il a commencé à sortir ses premières feuilles, signe que l'été du grand plan de Dieu est proche. Ne nous empressons pas de faire des prophéties, mais redressons-nous, car notre salut est proche. En Palestine, là-bas, se prépare la scène où se jouera le dernier acte du drame de l'histoire humaine. Heureux celui qui ne la verra pas se dérouler de près. Peut-être que quelque part s'aiguise déjà la plume de ce traité fatal. Heureux celui qui se trouvera hors des limites de ce fameux traité. La grande tribulation, le cœur de l'homme, il n'a pas été créé uniquement pour l'affliction. Ses yeux n'ont pas été créés pour toujours verser des larmes. Le cœur de l'homme a été créé pour la joie et ses yeux pour le sourire. C'est pour cela justement que le Christ est venu dans notre monde pour nous donner cette joie. C'est pour cela que lui, il a goûté la terrible douleur de la croix, pour que nous puissions connaître la vraie joie, celle que personne ne peut déraciner. Du fond de mon cœur, je souhaite que nous prenions toute cette joie des mains du Christ et qu'aucun parmi nous ne connaisse le nuage noir de cette terrible tribulation. Chers amis, l'étude a interrompu notre séjour dans les sphères célestes autour de la table de notre Seigneur Jésus-Christ pour retourner rendre une courte visite à notre planète. Nous l'avons trouvée plongée, cette planète, dans la fumée d'une horrible affliction. Nous avons vu le péché déborder comme un fleuve répugnant. Et maintenant que la barrière de l'Église a disparu, nos yeux ont été horrifiés par le déchet de ce débordement et l'incarnation du péché dans la physionomie hideuse de l'Antichrist. Et maintenant, nous écoutons le mugissement des vagues de la grande tribulation frapper impitoyablement notre monde malheureux. C'est pour ces jours ténébreux que notre Seigneur avait dit que ceux qui seront alors en Judée s'enfuient dans les montagnes. Saint Matthieu chapitre 24, verset 16. Ainsi, les hommes chercheront évidemment un abri dans les cavernes et les trous de la terre. Et dans l'amertume et l'angoisse de cette période, ils crieront enfin aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, dérobez-nous à la vue de celui, je répète, de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau. » Apocalypse chapitre 6, verset 16. Et c'est alors que les étoiles, le soleil et la lune seront affectées par les tourments de notre planète, comme notre Seigneur l'a prédit. Il a prédit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Saint Matthieu chapitre 24, verset 29. Une effroyable secousse ébranlera d'un bout à l'autre le firmament de Dieu. Ce sera le retentissement des dernières agitations du mal sur notre terre. Et c'est à ce moment-là que la tragédie de l'homme trouvera enfin sa purification. Au milieu de cette période, qui est la plus triste de notre histoire, une douce lumière paraîtra subitement. Alors a dit notre Sauveur, et c'est alors, se rapporte au terrible détail de la grande tribulation. Oui, alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 30. Et au-dessus de la fumée de la guerre, au-dessus de ce débordement sans précédent du péché, au-dessus des gémissements de l'affliction, de la douleur, paraîtra soudain dans le ciel le spectacle le plus lumineux qu'un œil puisse voir. Les nuages se transformeront en un char d'or, et sur ce char, les hommes verront le Christ revenant sur la terre avec tous les siens. Il faut prévenir ici une éventuelle confusion dans la série des événements que la Sainte Parole de Dieu nous présente. Dans notre troisième message, nous avions entendu un son de trompette déchirer les airs. Cela signifiait que Jésus-Christ était venu chercher les siens. Donc, cet événement n'était pas le second avènement du Christ, mais c'était l'enlèvement de l'Église. À ce stade des événements, exactement comme nous les prédit la Sainte Parole de Dieu, le Christ ne viendra pas sur notre terre, mais ceux des croyants qui seront morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, demeurés sur la terre, nous serons enlevés tous ensemble avec eux au milieu des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est la précision que nous donne l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Mais maintenant, notre Seigneur vient avec les siens sur la terre. Ce sera sa première visite personnelle sur notre terre depuis son départ. Sur la montagne des Oliviers, à peu de distance de Béthanie, le Christ avait fait ses adieux aux siens avant son ascension. Sur cette même montagne, pendant que les disciples étonnés et pleins de crainte regardaient encore le nuage envelopper leur maître, deux anges étaient apparus et avaient dit « Homme de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui du milieu de vous a été enlevé dans le ciel, il en reviendra exactement de la même manière que vous lui avez vu monter. » Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Ce jour-là, ils n'étaient que quelques-uns. Mais maintenant, toute la terre va le voir. Maintenant, l'éclair qui déchire le ciel annonce à tout l'univers que Jésus-Christ revient. Notre Seigneur avait dit, « De même que l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. » Notre Seigneur avait prédit son retour glorieux au moment le plus pénible de son humiliation, dans le palais du grand prêtre, au moment des crachats et des soufflets par lesquels l'homme faisait ses adieux au Fils de Dieu. Notre Seigneur s'était alors tourné vers le grand prêtre et avait dit « Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Le Christ reviendra de cette manière sur notre terre. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Apocalypse chapitre 1, verset 7. Et lorsque le Christ remettra les pieds sur notre terre, nous serons arrivés à un nouveau point du dessein d'amour que Dieu a prévu pour les siens. Il est vrai que durant la longue histoire de l'Église, le second avènement et le règne de Jésus-Christ sur terre tantôt ont été négligés, même ignorés, par de grandes masses de croyants, de sorte qu'à certaines époques, l'espoir de ce second avènement a été presque complètement inexistant dans le cœur de l'Église, tantôt même cet espoir a été l'objet de polémiques au sein de l'Église. La naissance d'une telle polémique contre ce dogme de notre foi est due à quelques-uns d'entre nous parmi les plus fervents, par leur exagération et leurs idées. Ils ont donné une couleur fort matérialiste aux détails de cette attente bienheureuse. Mais la source réelle de l'aversion qu'a provoqué ce dogme, c'est l'égoïsme et l'orgueil qui est bien enraciné dans le cœur de l'homme. L'homme même, celui qui a été régénéré au contact de l'Évangile, a du mal à perdre son espoir en lui-même. Il trouve difficile d'accepter que le chaos dans lequel sa vie a été plongée par son péché ne puisse être réparé par ses propres efforts. Et l'homme ramasse avec, on peut dire, assiduité, les ruines de la maison démolie, cette ruine de la maison démolie de son bonheur, et il s'efforce de la reconstruire lui-même. Ainsi, d'un côté, l'homme a ce monde construit des sociétés des nations, des organisations des Nations Unies et tant d'autres entreprises aussi illusoires que généreuses. De l'autre, le chrétien emploie toutes ses forces dans l'action sociale avec l'espoir que, par de tels efforts, il christianisera tout le monde et transformera cette terre de péché et de guerre en un monde de paix et de joie. C'est principalement l'atmosphère rationaliste qui a soufflé dans le cœur de l'Église et qui a éteint presque totalement l'attente du second avènement du Christ jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais l'expérience cruelle de deux guerres a rempli le monde de débris, et c'est en débris qu'a été transformé l'optimisme et l'assurance qui caractérisaient la pensée de beaucoup de chrétiens du XIXe siècle. Depuis, l'Église a pris de nouvelles orientations, elle est remontée à la montagne des Oliviers, elle a tourné ses yeux avec nostalgie vers le ciel et elle a commencé à réchauffer en son cœur la bienheureuse espérance du second avènement. Un certain nombre d'Européens qui ont complété leur notion théologique dans des camps de concentration ou d'autres établissements semblables déclarent aujourd'hui avec une nouvelle vivacité, même les rationalistes parmi eux, que le seul espoir pour l'homme, c'est le retour du Seigneur et c'est l'installation de son règne. C'est précisément en relation avec le règne du Christ qui sera inauguré lors de son second avènement que les plus belles et plus catégoriques promesses nous ont été données de la part de Dieu. Oui, notre Seigneur dit aux siens, « Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à notre Père de vous donner le royaume. » Saint Luc, chapitre 12, verset 32. L'apôtre Paul écrit dans sa seconde épître à Timothée, « Digne de foi sont ses paroles, si nous mourons avec lui aussi nous vivrons, alléluia, et si nous restons fermes dans l'épreuve, et avec lui aussi nous régnerons. » 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. Le prophète Daniel écrit, parlant de la vision qu'il avait eue des animaux qui symbolisaient les différentes monarchies qui devaient défiler sur la scène mondiale, « J'avais un livre antique avec tous ces animaux magnifiquement dessinés par un artiste et c'était vraiment fabuleux. Malheureusement, je l'avais prêté et, comme toujours, ou presque toujours, on ne rend jamais ce qu'on prête. C'est comme ça. Bon, mais qu'après l'apparition du dernier animal, il a vu un personnage pareil à un fils d'homme qui venait sur les nuées des cieux. On lui donna la puissance, la gloire et la royauté. Sa puissance est une puissance éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est écrit dans Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Chers amis, il est nécessaire de donner quelques précisions sur ce règne car il est sujet à une grande confusion. Cette confusion vient du fait que l'on trouve dans l'Écriture sainte des passages où le royaume de Dieu apparaît comme quelque chose qui appartient au présent, à une situation actuelle. Ainsi, lorsque Jésus-Christ dit à ses auditeurs, « Voici que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Saint Luc, chapitre 17, verset 21. Et d'autres passages placent, par contre, ce royaume dans l'avenir, comme d'ailleurs notre Seigneur le fait dans un bon nombre de ses discours. Il est par conséquent nécessaire de souligner bien clairement que le royaume de Dieu a deux aspects. Chacun peut maintenant entrer dans le royaume de Dieu en attendant de jouir de façon beaucoup plus parfaite de ce royaume dans l'avenir. Chacun a la possibilité maintenant même d'entrer dans le royaume, même aujourd'hui, dans ce royaume de Dieu, en accueillant le Christ dans son cœur comme roi. C'est par la nouvelle naissance qu'on y accède. Et cette nouvelle naissance, si clairement précisée par notre Seigneur à Nicodème, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Johannes, Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Le cœur est la vie de l'homme, d'abord, dans toutes ses relations et dans tous ses détails, tel est le lieu initial du royaume de Dieu. C'est cet aspect qui nous intéresse principalement et fondamentalement. Ainsi, le royaume de Dieu, pour chaque homme régénéré, pour chaque enfant de Dieu, constitue une réalité bénie. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la seule forme sous laquelle nous espérons voir le royaume de Dieu. Nous le verrons, c'est l'affirmation réconfortante de la sainte parole de Dieu, non seulement dans le petit royaume du cœur et de la vie de l'homme, mais aussi dans l'immense royaume du monde. C'est ce que souligne la prière que nous a enseignée notre Seigneur, que ton règne vienne, à laquelle il a ajouté aussitôt après. C'est l'autre demande. Quelle est cette autre demande? Il a dit que ta volonté, ô Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Selon une version allemande. Ça se trouve dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 10. Le Christ nous a pas donné seulement une prière, mais aussi une promesse. La promesse qu'un jour son règne viendra, et sous cette forme beaucoup plus vaste, que sa volonté sera faite, non seulement dans le petit royaume du cœur régénéré, dans mon cœur et dans votre cœur régénéré, mais surtout à la terre, exactement comme cela se fait au ciel. Cela n'aura lieu qu'avec le second avènement du Christ et pas avant. Aucun effort humain ne peut le réaliser. Nul règne n'est possible sans roi, et la terre ne sera un royaume que si le Christ lui-même revient. Donc, mes chers amis, l'inauguration du royaume de Dieu se fera ici-bas. Le royaume de Dieu, royaume éternel et impérissable, dont les limites seront celles de l'infini de la création de Dieu, ça c'est quelque chose que notre Seigneur a promis explicitement à son Église. Pendant sa dernière soirée au cours du dernier repas, notre Seigneur avait dit aux siens, « Je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur les trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Saint Luc chapitre 22, versets 29 et 30. L'inauguration de ce règne aura lieu ici-bas, avec le millénaire de paix de Jésus-Christ sur notre terre, comme la sainte parole de Dieu le déclare très clairement. Apocalypse chapitre 20, versets 2 à 4. Ça, c'est donc un sujet plein de points d'interrogation très difficiles auxquels je ne tenterai pas de donner la réponse, car aujourd'hui, ce que nous sommes encore et ce que nous savons ne suffisent pas pour essayer d'y répondre. Dieu ne demande pas à l'homme de percer tous les mystères et de trouver la réponse à toutes les questions, mais de prendre vis-à-vis de lui une position d'obéissance, de foi, d'humilité et d'attendre que le Créateur lui donne en temps opportun la réponse à ses questions. Il me semble cependant que nous pouvons donner la réponse à une question qui, dans la perspective du règne du Christ, préoccupe la pensée humaine. Plusieurs, en effet, se sont demandé, mais pourquoi ? Pourquoi serait-il nécessaire que le Christ règne sur la terre pendant 1000 ans ? Pourquoi ? N'est-il pas suffisant qu'il règne éternellement dans l'immensité, dans l'infini de l'étendue, de la puissance et de la beauté de l'univers ? Pourquoi donc l'intercalation d'un règne millénaire du Christ sur notre planète ? Pourquoi ? La planète qui a causé tellement de dissonances dans l'harmonie de la création de Dieu, eh bien, à mon sens, c'est pour la raison suivante. Notre terre a été le lieu d'une telle discordance qu'elle a besoin, en quelque sorte, dans son histoire, d'une réparation carrément solennelle. Parce que notre terre a fait germer les épines inconnues dans le reste de la création de Dieu, il est donc grand besoin que ces épines soient déracinées et qu'à leur place poussent des myrtes et des cypress. Parce que la désobéissance de l'homme a entraîné dans la malédiction toute la création qui soupire et qui souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, verset 22. Il est donc nécessaire que la nature elle-même se libère de sa malédiction. Parce que cette terre a connu l'humiliation et l'avilissement qui viennent toujours comme résultat du péché, il est donc indispensable qu'elle connaisse d'une manière toute particulière la gloire de Dieu. Et elle la connaîtra. La période de 1000 ans sera un des plus admirables miracles dont Dieu ornera l'histoire du salut des hommes. Dieu ramènera alors l'homme sauvé, à son ancienne maison, la maison qui a été salie, qui a été déshonorée, qui a été démolie par les conséquences du péché. Il le ramènera à la maison, là où l'homme habitait avec sa chute. toutes les conséquences de la malédiction seront effacées. Alléluia. Toutes les épines seront déracinées et toute la beauté initiale sera rétablie. Gloire soit rendue à ton saint nom et durant une heure rapide de 1000 ans dans l'infini de l'éternité, l'homme se réjouira de sa belle et vieille maison. L'une des plus belles pages de toute l'Écriture sainte est celle dans laquelle la sainte parole de Dieu nous décrit la beauté resplendissante qui brillera sur notre ancienne maison lorsque elle sera reconstruite par le Christ dans son royaume. C'est à ce moment-là, dit le prophète, que les peuples diront « Venez, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu ». Alors de leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpes, on peut dire de leurs tanks, de leurs canons. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation et l'on n'exercera plus la guerre. Bon débarras. Ésaïe chapitre 2 verset 3 à 4. Et parmi les plus émouvants détails du règne du Christ sur la terre, on peut noter le changement qui surviendra dans le règne animal. Alors le loup habitera avec l'agneau, et le léopard gîtera avec le chevreau, le veau, le lion et le bœuf vivront ensemble, et même un petit enfant les conduira. Ésaïe chapitre 11 verset 6. Oui, en effet, tout changera. Telle sera la porte par laquelle l'homme sauvé entrera dans le royaume éternel où il régnera avec le Christ. Et si la porte est belle, songeons à la beauté incomparable du palais. Pour terminer, dans notre dernière étude, eh bien, nous essayerons de décrire le palais. Donc, à demain matin, restons pour le moment devant la porte. Réjouissons-nous de la beauté de ce merveilleux moment durant lequel notre terre, qui a bu tant de coupes amères depuis qu'elle a connu le péché, elle boira maintenant sa première coupe de joie. Et tandis que nous tenons devant cette porte, que chacun de nous laisse jaillir de son cœur une fervente prière de remerciement au Christ. Disons-lui, je te remercie, ô mon Seigneur bien-aimé, car cette vieille maison, c'est toi qui vas la reconstruire et la remplir d'une indescriptible beauté. Je te remercie, car c'est par ta grâce que je serai là, moi aussi, pour célébrer la gloire et la beauté de ton royaume. Alléluia. Chers amis, je remercie, et je pourrai jamais assez dire merci, ô Dieu, mon Papa céleste, et à toi, Jésus-Christ, pour avoir rétabli ma voix, car vous l'avez entendu, j'ai pu parler toute cette étude sans tousser, sans éternuer, sans cracher, sans racler la gorge, etc. Oui, il y a, je sais, un couple, un bien-aimé pasteur et sa merveilleuse épouse à qui j'ai fait beaucoup de mal. Ils prient pour moi. Ils m'ont pardonné. Oh, merci Seigneur. Ils m'ont pardonné. Que c'est beau. je pourrais maintenant verser des larmes, pardonnez-moi, mais je suis ému. Bien sûr que peut-être, je me trompe peut-être, les autres serviteurs de Dieu qui avaient une image détestable, horrible de moi, peut-être avant de mourir, ils changeront d'idée, c'est possible. Néanmoins, je remercie ce saint couple, parce que ce sont des saints, pour leur prière. Rendez-vous compte, j'avais la bronchite, j'étais traité par des antibiotiques terribles, ensuite la gorge, une angine épouvantable, et pour mettre la cerise sur tout cela, une double pneumonie infectieuse. C'est le scanner qui a révélé cela. J'en ai eu pour tout l'hiver. Je viens juste d'en sortir. Et la voix que vous avez entendue, c'est le miracle qui s'est opéré. Car jamais j'aurais normalement dû pouvoir continuer de faire ces études sur CD, jamais plus. Terminé. Bien sûr que à 88 ans, il faut bien comprendre que ça peut se terminer, c'est vrai, mais pas toujours de la plus mauvaise façon. Merci Seigneur. Jamais je pourrai être assez reconnaissant. Jamais. Merci Seigneur. Je voudrais vous donner, parfois le Seigneur me donne, quelques encouragements, quelques pensées sur votre route, avant que nous prions ensemble. Alors, ayez toujours présente à l'esprit une vérité qui dès maintenant se